trois demandes. Et on vous propose la solution suivante. Puisque je suis ici, je parle ici. Madame Duras parle à Richelieu. Blandroit à Michelet. Axelos et Mascolo à Quiné. Par conséquent, vous pouvez...
Ceux qui se laissent induire par la respectabilité croissante de la culture de masse à prendre une chanson populaire pour une œuvre d'art moderne parce qu'une clarinette y fait des couacs et qui croient qu'un triple accord mêlé de dirty notes est atonal ont déjà capitulé devant la barbarie. L'art tombé au niveau de la culture subit le châtiment d'être irrésistiblement confondu avec ses propres déchets, plus il développe cette monstruosité. Le prix du privilège culturel est un analphabétisme sûr de sa valeur et qui prend l'abrutissement de l'excès toléré pour le royaume de la liberté. Rebelles timides, ils sont déjà prêts à courber l'échine, comme le jazz leur en donne l'exemple en intégrant le faux pas et l'arrivée avant l'heure à la marche collective. Il y a une ressemblance frappante entre le fan du jazz et certains jeunes adeptes du positivisme logique qui se débarrassent de la culture philosophique, avec le même empressement avec lequel ceux-là se libèrent de la culture musicale. L'enthousiasme s'est porté sur le désenchantement. Les affects s'attachent à une technique et rejettent tout sens.
Bonsoir, chers amis auditeurs, amis auditrices, nous revoilà avec une nouvelle émission d'enquête de cinéma indépendant. Vous avez écouté un extrait de Théodore Adorno dans des circonstances qui nous ramènent à des histoires de moderne et d'anti-moderne. C'était les années 60, 68, 69. Et ce discours se faisait à la Sorbonne entre Adorno, Jean-Paul Sartre et Essa Kilic, d'amateurs de jazz, comme il les appelait. Nous sommes ce soir avec nos amis que... Nous sommes là ce soir en compagnie de Marianne Malek, Jacques Andreas.
Bonsoir.
Marc Sialom.
Bonsoir.
Henny.
Bonsoir.
Militant infatigable, imbattable sur tous les fronts. Yann.
Bonsoir.
Homme de sang, de cœur et d'esprit. Nous ferons un petit passage sur un autre extrait pour commencer cette émission avant de vous présenter nos invités.
les hommes tombent dans le panneau, pourvu que cela leur apporte une satisfaction si fugace soit-elle même, mais ils souhaitent même cette imposture tout conscient qu'ils en sont.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
It's a Freddie Neil song.
Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare, and I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Going where the sun keeps shining. Going where the weather suits my clothes. Banking off of a northeast wind, sailing on a summer's breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, sur cette nouvelle émission. J'aimerais donner la parole en premier à notre ami Marc Sialom, que peut-être certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Marc Sialom qui m'entend mal. Là, ça va mieux, Marc ? Très bien. Bon, ben,
oui, c'est mieux.
Je pense
c'est
que
mieux.
Ça, voilà, très c'est bien. Mieux. Merci, Henny, pour l'ajustement. il s'agissait de tout à l'heure, depuis cet après-midi. Entre nous, on parlait d'art, de culture, et quelle est la place de cinéma ?
Bah, écoute, j'ai écouté ce que disait Adorno au sujet de la culture. C'est passé assez vite, j'ai pas forcément pénétré à fond ce qu'il disait, mais j'ai tendance personnellement à me méfier un petit peu du mot culture, dans la mesure où quand on dit culture, aujourd'hui, il s'agit surtout de réponses. Alors que pour moi, l'art est un questionnement perpétuel, est une interrogation perpétuelle, est de l'ordre du désir et du questionnement. Alors que les cultures sont de l'ordre de choses bien assises, bien appartenant à des communauté, j'ai tendance à me méfier un petit peu de cette chose-là. Je serais davantage pour un art un peu plus libre et plus sauvage. Mais bon, ce n'est qu'un petit début de réflexion.
Tout à fait. On est bien d'accord que dans la chose culturelle, de plus en plus, on nous sert surtout... tout pêle-mêle.
Oui, et surtout des recettes, des choses qui sont admises, qui sont de l'ordre de la bien-pensance. J'ai tendance à me méfier un peu. Je suis plutôt du côté de l'invention et des tables rases.
Mais n'y a-t-il pas de temps en temps des contestations, des remises en question, des gens qui ruent dans les brancards, des excentricités.
Bien sûr qu'il y en a. Évidemment, il n'y a que ça. Ce sont ceux que j'aime. Ce sont ces gens-là que j'aime.
Mais est-ce qu'ils n'entrent pas justement dans ce cadre, dans le fait de pouvoir donner du prêt à apprécier, parce qu'on est en matière d'art, c'est plus du prêt-à-porter ou du prêt-à-porter artistique lorsqu'on...
Ben, tout à fait, c'est ça l'art. L'art est invention perpétuelle, l'art est interrogation. Dans ce sens, l'art m'intéresse. Et c'est tout, je ne veux pas m'attarder sur cette distinction. L'art m'intéresse plus que ce qu'on appelle aujourd'hui culture, voilà.
Mais l'art n'est pas culture. Il est un élément de la culture. Il est une composante de la culture.
Il n'est pas forcément une composante.
Est-ce qu'il peut se développer en dehors de la culture ?
Mais il ne fait que ça. Il ne fait que ça. L'art passe son temps à contester les choses bien assises et bien reçues, qui sont de l'ordre de la culture, à les contester, et il passe son temps à créer des cultures nouvelles qui se transforment perpétuellement.
Et voilà, nous y sommes. L'art est un produit de la culture et culturellement assimilable en quelque sorte.
Pas forcément, non. L'art tel que je l'aime, l'art des artistes que j'aime, ne se veut pas assimilable. Il se veut révolutionnaire. Moi, je vois les choses comme ça. Enfin, y a 1000 sortes d'art. Hein. Tout est permis en art et tout existe dans la culture. Bon. Donc, dans ces domaines, on pourrait dire tout et le contraire. Mais je suis obligé d'être subjectif. Je suis subjectif, je ne peux pas faire autrement.
Pourquoi y aurait-il un art objectif ? Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas, évidemment.
À ma connaissance,
non, mais évidemment, il n'y a pas
d'art. C'est pas ce que vous en pensez.
Mais c'est pas ce que je suis en train de dire.
L'art est intrinsèque à l'homme. C'est-à-dire que l'art existe depuis des milliers d'années et que, de toutes les façons, il est l'homme.
Bien sûr.
Le problème, c'est qu'il y a on est né avec la capacité d'être artiste.
Bien sûr.
Mais on nous l'enlève aussi. Et c'est souvent... on n'est pas assez stimulé.
On l'a enlevé.
Donc il n'y a pas de culture ou pas culture. Il fait partie intégrante de l'homme.
Donc, bien sûr.
Tu veux dire qu'on l'a enlevé à l'homme pour le donner à des spécialistes de l'art.
Moi, je trouve que ce qu'on dit est très, 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 très complexe, qu'on n'a défini ni le mot art, ni le mot culture, que je serais bien incapable, au demeurant, de définir rapidement. Le texte d'Adorno m'a paru très altier. Très altier, un peu comme certains textes de Pasolini de l'époque, mais chez Pasolini, il a une humanité derrière que je n'ai pas senti là. Et j'ai senti un grand mépris qui envoie le jazz aux orties. Alors évidemment, on est dans l'angoisse la plus totale, parce que comme on vient de le dire, chaque culture crée un nouvel art qui crée une nouvelle culture, mais on arrive à un certain nihilisme qui est intéressant, mais qui ferait qu'on pourrait s'arrêter de parler séance de notre. Mais c'est terrible, je pense... on arriverait à Beckett, on arriverait à des gens comme ça qui sont arrivés à écrire sans écrire tout en écrivant. Enfin, quand tu as dit que c'était tout est contradictoire, je pense à la contre-culture par exemple, ce qu'on appelait la contre-culture des beatniks ou autres, des hippies ou autres, ou encore aujourd'hui des rockers indépendants comme Damien Saez. Alors là où on est dans l'art, on n'y est quand dans l'art. C'est vraiment... tout à l'heure, avant l'émission, je parlais avec Yann, je crois, d'une anecdote qu'on m'a racontée hier à Paris, qui est assez glaciale, qui met dos à dos la culture, les cultures, l'art et la consommation de masse. Pour la Joconde, les gens ont des cordons de sécurité. Ils prennent un selfie en tournant le dos donc au tableau. Ils prennent un selfie et on leur dit dépêchez-vous, bouchez les trous. On les fait partir comme ça et tout. Ça m'a traumatisé hier. Pourtant, je suis assez tranquille. Ça m'angoisse un peu les histoires trop élitistes. Mais là, du coup, on se demande vraiment un peu où ça va, quoi.
Non, peut servir un outil de propagande, c'est-à-dire. Qu'il l'a servi dans l'histoire.
Et c'est quand même de l'art.
Et c'est quand même de l'art.
Oui, c'est le problème,
donc,
ça.
Si l'art développe l'humain dans ce qu'il a de meilleur, il le développe aussi dans ce qu'il a de pire. Ouais. Parce que l'art amène à toutes les facettes. Tu vois ? Donc, ça a été un outil de propagande. C'est encore un outil de propagande. Une culture de masse qui se veut... culture populaire, hein, qu'on nous rabâche à longueur de... Je fais des ateliers avec des enfants et je sais pourquoi on passe pas, parce que je fais pas la culture populaire, je fais la culture. J'amène aux enfants ce que l'éducation nationale n'amène pas, et c'est pas contre l'éducation nationale, c'est pour renforcer.
Mais il faut des exemples précis. Là. On entend une phrase comme ça, ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce qu'elle n'amène pas à l'éducation nationale et qu'est-ce que tu amènes, toi, dans ces ateliers ?
J'amène l'art dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, ils ont des programmes. Et ils se tiennent à ces programmes. Ils sont inspectés, ils sont verrouillés. Je ne critique pas les professeurs. C'est tout un ensemble. Et quand on amène, nous, nos ateliers cinéma, d'écriture, etc., et qu'on a une forme où on discute avec les enfants, on les fait écrire, on leur fait se poser des questions sur leurs copains, le système de l'école dans lequel ils sont, ils racontent une histoire. Et ils nous racontent une histoire. Moi, quand je fais des ateliers au cinéma, je ne suis pas un réalisateur. Je ne suis pas un ingénieur du son. Je suis un accompagnateur. Je les accompagne avec les outils. Et c'est eux qui servent des outils. Et c'est eux qui me parlent. Et l'éducation nationale n'a pas ces moyens-là. Nous, on a ces moyens parce que c'est l'art qui nous amène à cette liberté. Et on devrait s'imposer...
Il pourrait avoir ces moyens.
Il pourrait, oui.
Il pourrait. Le problème, c'est que l'art est par de lui-même révolutionnaire, parce qu'il dérange. Il n'est pas dans des normes.
Oui.
Dans des normes, dans un cadre bien précis. Il y a un cadre, en effet, comme par exemple quand on fait une peinture. Mais l'art dérange toujours. Un atelier d'art, moi je me suis vue dans des réunions de parents, je me suis vue traitée de révolutionnaire simplement parce que je disais que le samedi matin, ça serait bien de faire des ateliers intergroupe. Mais avec de la couture, avec quoi que ce soit. Mais intergroupe, c'est-à-dire toutes les classes confondues. Mais ça, on le dit depuis au moins 50 ans.
Bien sûr.
Mais j'étais révolutionnaire parce que j'ai parlé d'ateliers artistiques. L'art remet en cause. Et c'est ça qui est intéressant peut-être à approfondir aussi.
Oui, alors tu disais que l'art dérange toujours. Pas forcément.
C'est pas toujours le cas.
Non, pas toujours le cas. Ouais. C'est-à-dire que l'art, comme tu disais, c'est le meilleur et le pire. Ouais. Et donc, il y a l'art qui est fait pour ne pas déranger, justement, pour conforter les gens dans leur manière
quoi, de ressentir. Par exemple ?
Il y en a de toutes sortes. Les académismes et les pompiérismes de tous acabits et de toutes les époques. Il y en a toujours eu, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et particulièrement...
Oui, d'accord, mais dans la vie courante, l'art remet en cause
pas
toujours.
Pas forcément.
Alors pourquoi ça n'existe pas, l'éducation nationale ?
On n'a pas trouvé meilleur corset pour l'art que l'académie. C'est le corset de l'art, c'est l'art.
Voilà, c'est le corset.
C'est à part, ça, c'est à part. C'est l'élitisme dont vous parlez.
Donc, oui. Non, ce n'est pas de l'élitisme.
Bon, il est évident que ce que j'aime, moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'art qui révolutionne et qui ne conforte pas dans ce que l'on sait déjà ou dans ce qu'on ressent déjà. C'est évident. Bon, mais je viens de constater que tous ces aspects de l'art existent, le meilleur et le pire. Bien. Alors, moi, je m'intéresse au meilleur. Et qu'est-ce que c'est le meilleur ? On parlait tout à l'heure de définir l'art. C'est quoi l'art ? Il me semble que cet art dont tu disais qu'il est né à la préhistoire, il est né dès le début de l'humanité, ça a toujours été l'expression d'un désir, d'un élan, d'un manque, de quelque chose que l'on n'a pas et que l'on souhaite. Les hommes préhistoriques qui dessinent les bêtes qu'ils veulent... qu'elles veulent réussir à tuer pour les manger, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui sont de l'ordre ou qui dessinent la femme en tant qu'objet de désir, etc. Bon. Donc l'art serait l'expression d'un désir, d'un élan vers ce que l'on n'a pas. Il me semble que c'est ça au départ. Et il me semble aussi que dans ces conditions... l'art qui est toujours de l'ordre de l'imagination, de l'ordre du rêve et du côté de l'utopie. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans ma condition humaine, tout ce que je ne peux pas atteindre parce que je suis enfermé dans mon époque, dans mon corps et pas dans le corps de l'autre, dans mon époque et pas dans une autre époque, dans... sur cette planète et pas dans une autre planète, dans ma vie qui est brève et non pas dans l'éternité, je mourrai un jour. Enfin, toutes ces limites qui m'enferment, je souhaite inconsciemment ou semi-consciemment de les dépasser, de les déborder, ces limites, et d'atteindre
à ce que je n'ai pas. C'est là, c'est ça que l'art exprime, et c'est en ce sens que Malraux disait que l'art est un antidestin. Un antidestin, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de dépasser le destin des humains.
Oui, mais ça, c'est ça. Je suis absolument d'accord avec ça, c'est merveilleux, on est bien d'accord. Mais quand même, on retombe dans le problème, parce que ce désir de transcendance, si minime soit-il, tout le monde l'a.
Bien sûr.
Et c'est là qu'on rejoint le problème de l'appréciation de la culture. Parce que si on part du principe que chacun est un artiste potentiel et en tout cas a un désir d'élan vert, comme tu l'as fort bien dit, il le nourrit soit avec donc de la culture ou des pratiques artistiques. Et c'est là que nous, vaguement philosophiques, intervenons dans l'évaluation de la culture. C'est dans le texte d'Adorno, quand il a dit il se croit cultivé parce qu'il a rajouté 3 notes de clarinette dans une chanson populaire, moi, ça me scandalise.
Moi aussi,
Absolument. Son appréciation du jazz est scandaleuse.
Oui, bien sûr, monsieur.
C'est le signe d'un mépris. Le jazz, justement, quand je parlais de corset académique,
Il était révolutionnaire.
C'est révolutionnaire contre notre existant. L'ordre existant, c'est quoi? C'est l'académie. L'académie, c'était quoi? C'était l'académie musicale qui mettait des barrières, qui imposait un rythme, une mélodie, etc. Tout à l'heure, tu as parlé d'art et de condition humaine. Justement. Parce que l'art, justement, et c'est là que nous allons peut-être revenir à notre sujet fondamental, qui est l'art des arts, que je conseille, qui est le cinéma, donc qui est la condition. Mais la condition humaine, c'est la condition concrète de l'humanité, c'est-à-dire sa condition sociale à l'intérieur des sociétés, différentes cultures, etc. Donc, et à partir de ce moment-là, il y a dans la société un art qui va refléter ces contradictions. Et c'est lutte. Et donc, il y aura un art qui va exprimer une condition misérable, une condition de bourgeois, une condition de... Oui. Et tu parlais d'utopie, et il va transcender cette réalité sociale pour lui donner une dimension, utopique peut-être, mais une dimension révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va, il va se projeter dans vous regardez, je sais pas, il y a un tableau qui me revient à l'esprit il résume tout, c'est le cri. Donc, quand on regarde le cri, on ne pense pas juste à un événement de l'histoire, mais on pense à la condition humaine tout au long de l'histoire que nous avons vécue ou qui nous a été transmise. Nous ne sommes pas en regard avec une condition sociale réelle que nous vivons. Nous sommes en regard, nous sommes interrogés. Nous ne sommes plus des spectateurs d'une esthétique. Et même si c'est uniquement esthétique, cette esthétique même nous interroge. Et donc,
Merci Henny d'avoir souligné ce miroir de la société qui est le 7e art, qui est le cinéma dont on essaye un petit peu de rapprocher l'art et la culture à ce point-là, à cet endroit-là. Si vous permettez, Yann, je voulais vous passer un extrait qui peut-être va nous aider un peu à revenir vers la question d'aujourd'hui, vers la société et le pourquoi. C'est la question que l'on se pose et que l'on se posera toujours fondamentalement en premier. Je vous laisse écouter.
Pourquoi la société moderne est insatisfaite en permanence? La raison fondamentale étant que la société moderne a des projets qui sont en tant que tels contradictoires et irréalisable. Par exemple, la société moderne a un projet démocratique égalitaire. Mais d'un autre côté, elle a aussi un projet productiviste. Or, le productivisme implique organisation, discipline, hiérarchie, ce qui est contradictoire avec l'aspiration égalitaire qui fonde en même temps la société moderne. Autre exemple, du moment que vous voulez un ordre démocratique, il faut la compétition. Un des aspects typiques des révoltes d'étudiants, ce sont les révoltes contre les examens. Or, je veux bien dire que les examens sont mal organisés, qu'ils sont excessifs, etc., etc. Mais finalement, le refus des examens, c'est le refus de la compétition qui est liée à la démocratie elle-même. Et aucune des sociétés modernes n'évite la compétition. Comme vous le savez, une des sociétés les plus féroces à cet égard, c'est la société soviétique, où le nombre des étudiants dans les universités est strictement limité, et où ceux qui sont étudiants se considèrent comme des privilégiés.
De qui est ce texte?
Je me demande, je ne connais pas extrait, ce texte.
Je vous ai envoyé un extrait de Raymond Aron, dans la même sphère de discussion entre militants modernes, militants anti-modernes, alors qu'ils étaient tous à la Sorbonne. Et à ce moment-là, ils préparaient donc la sortie pour cette marche dans les rues, pour reprendre leurs espoirs dans les rues de Paris. On est au début des événements.
De 68, oui.
Exactement. Mmh. Et donc là, toutes ces questions se posaient à ce moment-là.
Oui, mais je voudrais dire quand même quelque chose. On parle de l'art, l'utopisme, etc., juste avant. Moi, j'ai été compagnon du devoir. Compagnon du devoir, on a rénové des bâtiments de France, on a rénové des trucs. J'ai participé aussi à la première, à la compression de son, dans les années 90. C'était utopique. Et on était des techniciens. On était des chercheurs fous. On était. Et on ne pouvait pas penser qu'un jour, par téléphone, où on pourrait faire du WeTransfer et de transférer des données aussi facilement qu'aujourd'hui. Et grâce à nos recherches, à notre folie, ça a amené ça. Sauf que là où on s'est planté, c'est que on a donné cet outil aux industriels, à une société, et cet outil nous a desservi. On a enlevé les preneurs de son à la télé. On a déstructuré le cinéma dans toute son atmosphère de plateau, de l'ingénieur du son, du preneur de son, qui sont aussi
de son
des formes
d'art. De son atmosphère.
Oui, de tout. Nous sommes tous des artistes dans le son. On assume toujours le son comme si c'était des technos, des techniciens qui feraient vite. Non, c'est pas ça. C'est tout le monde crée quelque chose. Quand je fais du plâtre ou du staff, je crée des rosaces, je fais des choses. On est tous des artistes. Et là où je dis, et quand j'entends ce texte d'un mépris extraordinaire sur ce qui se passait dans les années 68, que ce soit la guerre du Vietnam ou que ce soit l'Union soviétique, justement qu'il y avait une école, contraire à ce qu'on a pu dire, exemplaire. C'est-à-dire que les soviétiques, plus on était en haut de la hiérarchie, plus on risquait de se faire couper la tête, mais que plus on était en bas, plus on pouvait faire des études. Et là, il y a un mépris. Et quand je disais que l'art aussi a servi la propagande, eh ben on est là. On est dans cette propagande. Alors certes, on peut dire de Staline, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais derrière, il y a une pensée. Staline est un outil, comme il y a eu Pol Pot, qui est un autre outil. Mais il y a eu des penseurs, il y a eu des Ho Chi Minh, il y a eu des Gandhi, il y a eu des
Marx,
derrière c'est il y a eu Marx, mais derrière
Marx
ces pensées,
à l'origine, quand même.
Et derrière ces pensées, il y a quand même eu des hommes qui ont interprété. Si je mets par Marx, c'est que moi je suis d'origine vietnamienne et qu'Ho Chi Minh a interprété à sa propre culture, qui était le Vietnam. D'autres l'ont fait en Afrique. Sauf qu'en Afrique, on leur a coupé la tête.
Et voilà, donc on revient toujours à cette histoire de réalité, de société, de classe sociale, d'histoire. Et donc, pardon, donc l'art, en fait, on parlait d'art, et voilà qu'il parle d'histoire. Donc, on voit bien qu'il y a une... Il n'y a pas d'art sans histoire.
Il n'y a pas d'art sans histoire. Absolument, voilà. Absolument.
Et c'est l'art qui fait vivre l'histoire, en fait.
Oui, il n'y a pas d'histoire sans art non plus.
Voilà.
Oui. C'est vrai, puisque l'histoire est inventée, voilà. Finalement. Voilà. Elle part d'une réalité qui nous échappe, qui nous glisse entre les mains, et elle est racontée, écrite, elle est refaite. L'histoire, c'est autre chose qu'une réalité passée.
Exactement.
C'est autre chose qu'une réalité passée.
Tout à fait.
Bon, mais en tout cas, il me semble avoir compris que Wahib, tout à l'heure, avait envie que l'on parle de la politique dans l'art. Hein? Et ça, ouais. Je pense qu'on pourrait en parler.
Je pense que j'ai encore un extrait à vous administrer, non, mais, mes juste, chers juste, amis. Et
je crois que tu voulais dire quelque
peut-être
chose
qu'on va
sur,
y arriver. Peut-être, quoi, non, je n'ai rien à dire. J'ai
sur le discours d'Aaron. De... Là,
oui, non, non, ça va, on est d'accord sur le discours d'Aaron.
D'accord. Je vous laisse écouter cet extrait de Michel Foucault, justement, sur la question de l'histoire.
Des écoles de cinéma de Gig en Russie.
Oui, Dziga-Vertov.
Oui, non, mais Dziga-Vertov, c'est bien avant, mais oui. Je parle de l'école de Vgig, après, oui. Qui a donné des cinéastes extraordinaires, et les bases même du réalisme, du non-réalisme, de tous les courants cinématographiques. Tu as parlé de Dziga-Vertov avec Kino Pravda, le cinéma vérité, mais ensuite Eisenstein, etc. Donc, c'est quand même une école de cinéma qui a influé sur le cinéma mondial. Il faut pas le nier. Ce n'est pas du stalinisme. C'est de l'art.
C'est de l'art.
C'est de l'art.
Oui.
Absolument.
Oui. Oui. Alors vas-y, passe ton extrait.
L'histoire, dans sa forme traditionnelle, entreprenait de mémoriser les monuments du passé, de les transformer en documents. Et de faire parler ces traces qui, par elles-mêmes, souvent ne sont point verbales ou disent en silence autre chose que ce qu'elles disent. De nos jours, l'histoire, c'est ce qui transforme les documents en monuments et qui, là où on déchiffrait des traces laissées par les hommes, là où on essayait de reconnaître en creux ce qu'ils avaient été, déploie une masse d'éléments qu'il s'agit d'isoler, de grouper, de rendre pertinents, de mettre en relation, de constituer en ensemble. Il était un temps où l'archéologie, comme discipline des monuments muets, des traces inertes, des objets sans contexte et des choses laissées par le passé, tendait à l'histoire et ne prenait sens que par la restitution d'un discours historique. On pourrait dire, en jouant un peu sur les mots, que l'histoire, de nos jours, tend à l'archéologie, à la description intrinsèque du monument.
En monument, là je suis tout à fait d'accord. Hein. Tout à fait d'accord. Et ça indique également les limites de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que la réalité, qu'elle soit passée, présente ou future, nous échappe de toute façon en partie. Hein. De toute façon.
Et nous la réinventons. Et ça rejoint aussi ce que nous racontait de son dernier voyage, Jacques. Tout à l'heure, à propos du tableau de la Joconde.
Ah oui, mais alors ce tableau de la Joconde, ça m'a fait une impression bizarre. Ce qu'il a raconté, ça fait rigoler, quoi. Bon, le tableau lui-même, c'est évidemment une œuvre d'art. Je dois dire que personnellement, cette œuvre d'art, je suis devenu incapable de la regarder. Je vois rien. Quand je regarde la Joconde, je vois pas. Je vois rien. Parce qu'on m'a tellement bourré le mou que je sais plus ce qu'il faut voir. Bon. Mais par contre, ces gens qui défilent devant et qui se font photographier ou qui se photographient eux-mêmes, ça c'est de l'ordre de cette catégorie de culture qui m'inquiète. Voilà.
Absolument, c'est la culture de consommation en quelque sorte. Voilà, c'est comme les frites. Hein,
tout à fait, c'est comme les frites, exactement.
Parce que la Joconde, évidemment, quand on la voit, c'est un tableau.
Je vois rien.
Je vais dire une chose.
Regarde la Joconde, je vois rien.
Je l'ai vue une dizaine de fois. Oui. Mais la Joconde, c'est vrai que c'est un tableau magnifique.
Il n'est pas plus magnifique que beaucoup d'autres.
Voilà, mais il n'a rien de particulier. À part que c'est, sur le plan de l'histoire de l'art, c'est un élément fondateur. D'une école,
oui,
pas plus. Mais sur sa, son esthétique propre ou son esthétique interne ou son mouvement interne.
Il y a beaucoup, beaucoup de tableaux qui me touchent beaucoup
voilà,
plus.
Voilà, son mouvement interne, il n'y a rien de particulier. Il est autant, il a exactement la même valeur artistique que d'autres tableaux.
Alors,
mais
attends,
tu voulais
attends,
dire quelque chose, Marianne,
Vas-y.
Non, pas du tout.
J'avais envie de dire autre chose, mais enfin, si tu veux y aller, vas-y. Oui.
Ce qui est toujours étrange, c'est que quand on parle de... Enfin, moi, j'aime pas... Déjà, sa voix, elle m'insupporte.
Ah.
sur les monuments, sur... je voulais rebondir sur les selfies,
ouais.
Justement.
Ouais.
C'est... je pense qu'il faut pas... on travaille avec des très jeunes qui ont cette culture-là et qui sont en train d'inventer autre chose. Ils sont en train d'inventer une autre image.
C'est très possible que ce soit intéressant.
Et il ne faut pas, je pense, parce que j'entends souvent ça de gens qui ont un peu notre âge, qui disent le SMS, c'est la négation de l'écriture, etc.
Non, non,
et nous, on travaille justement à faire raconter des choses avec ces enfants-là. Et ils sont très précis. Ils s'en foutent de l'histoire qu'on leur raconte parce qu'on leur a menti. Et la propagande, et c'est ça qui est, je trouve intéressant maintenant, on sait que c'est un mensonge, d'un côté ou d'un autre. C'est une propagande, c'est une publicité. Et eux qui sont les enfants de la publicité, en fait, qui ont eu ces images systématiques devant les yeux.
Partir de là pour rebondir beaucoup
voilà.
plus loin.
Oui. Et ils vont inventer quelque chose.
Oui.
Et je pense que ces enfants-là, on les voit dans leur comportement à l'école, dans leur contestation. On attend toujours les jeunes en manifestation. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils attendent. Ils attendent de voir ce qui se passe. Ils sont beaucoup plus posés que nous, on l'était. À 20 ans ou en 68, ou je sais pas, où on y allait, fleur au fusil. Et je trouve qu'il y a des trucs très intéressants à parce qu'ils sortent justement de l'axe de la propagande. Et les Gilets jaunes en sont peut-être un début de quelque chose où il n'y a plus de leader. Et là, les journalistes, la société telle qu'elle est fondée, avec des leaders, avec des présidents, avec des directeurs généraux, eh bien, à qui on parle ? Eh bien, ils parlent aux gens. Et ils ont montré que même les journalistes ne savent pas parler aux gens.
Bien sûr.
Et ils ont montré l'incapacité à la télé, et ils ont montré ça. Et ça, je trouve que c'est pas, pour une fois, c'est pas l'art qui a amené les gens. Hein. C'est la culture. C'est que la culture populaire des années du Front Populaire a fait son travail, quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont éduqués.
Oui, mais indirectement et semi-consciemment, subconsciemment.
Oui,
si
oui,
tu veux.
Mais voilà. c'est toujours oui, quelque c'est chose ça. Qui arrive.
Voilà.
On ne sait pas trop comment.
Voilà, mais c'est ça l'art. L'art, ça part oui, toujours mais, du subconscient ou de l'inconscient.
Quand on partait de l'art et de la culture, là, c'est deux formes mélangées qu'on ne connaît pas ce que ça va devenir.
Ouais,
parce
ouais.
que tout se mélange des artistes, des gens qui n'ont jamais milité de leur vie.
Ouais, ouais.
Et je trouve que c'est intéressant et de ne pas poser le selfie ou comme une négation du cinéma.
Oui, là, je suis d'accord.
Mais...
Je suis d'accord quand même avec ce que tu dis. Hein. C'est pas parce que l'anecdote tout à l'heure, elle est terrifiante.
Oui, oui,
pas
oui.
Parce non. que c'est une taylorisation, même pas, c'est pire que tout. Enfin... Mais moi, je suis très convaincu, d'autant que là, toujours dans ce même week-end très, très fructueux, j'étais chez une amie qui fut mon élève, puisque je suis prof aussi, et qui fait des ateliers de théâtre avec des enfants très jeunes. Elle, cette année, on lui a donné des maternelles, et elle est étonnée par la vivacité d'esprit, le contraire de tout ce qu'on dit, qu'ils sont abrutis, qu'ils sont béats. Alors après, médicalement... Oui, médicalement, on peut revenir sur les histoires du danger des écrans entre 0 et 2 ans. Mais ce qu'elle voit sous ses yeux, ce qu'elle m'a raconté aujourd'hui, je ne sais pas si on était plus sot qu'eux, parce qu'on ne se le rappelle plus, on était peut-être très vifs d'esprit aussi, mais ils ne le sont pas moins, contrairement aux clichés qu'on nous distribue. Quoi.
Ils se servent des outils
dont ils disposent. Alors elle est presque empotée. Ah. Et avec ces enfants-là de 4 ou 5 ans, ils sont la sensibilité et la technique.
Voilà. Mais même dans la famille, ils sont face à des écrans dès leur naissance, ne serait-ce que la télévision. Et puis les familles ont évolué. Ce n'est plus les familles des années 50. Nous sommes dans un autre type d'organisation familiale. Nous sommes arrivés même à la famille recomposée.
Décomposée d'abord.
Composée et recomposée. Et ensuite, même je mets un chiffre tout simple. Dans les années 70, il n'y avait que 70% qui arrivaient au certificat d'études. Donc, pour arriver en troisième, je crois qu'ils étaient moins de 50%. Donc,
ça demande de vérification de statistiques.
Je veux dire que l'accès à l'outil qui vous permet d'accéder à la culture, c'est-à-dire la lecture, la manipulation de l'ordinateur, etc. Aujourd'hui, c'est devenu des objets de consommation courante. Je veux dire.
Juste un bémol. Oui. C'est que nous, on a fait des ateliers dans le 15e, La Savine, etc. Ouais. Et il y a une disparité incroyable de l'utilisation de l'outil. Ouais. C'est-à-dire que la salle informatique, ils appellent ça salle informatique, gérée par un informaticien et pas par un champion du réseau. Ces salles sont fermées. Ces salles sont fermées et à l'école, ils n'y ont pas accès. Donc, c'est des salles où tu as plein d'ordinateurs et pour eux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre aussi, tu as des jeunes qui ont l'accès à l'outil, là, il n'y a pas de problème, ils ont des iPhones, etc. Mais ceux d'en face, ceux d'en face les ont aussi, mais les ont différemment. Parce qu'ils ne supportent pas ce côté où on leur dit prenez l'outil, etc. Et puis quand ils arrivent, la porte elle est fermée. Elle est fermée à clé. La plupart des écoles qui disent être équipées informatiquement, nous on travaille avec des écoles de Paris. Ils ont tableau numérique, école privée, tableau numérique, etc. Tu vas à la Savine ou des quartiers populaires de Paris, hein, c'est pareil. C'est fermé. Ils n'ont pas accès. Donc, eux se servent beaucoup mieux de l'outil téléphone, iPhone, etc. Tu fais faire des images par des gamins de quartier avec leur iPhone, ils le connaissent par cœur, le truc. L'inverse n'est pas vrai. Donc, il y a aussi une réalité sociale qui s'est installée. Quand tu dis que le certificat d'études n'était pas accessible, hein, aujourd'hui, on est en plein recul.
Je ne pense pas que nous soyons. Si, il y a un recul par rapport aux possibilités actuelles, mais par rapport aux années 70, il n'y a pas de recul. C'est relatif, donc.
Mais non, c'est pas relatif.
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la possibilité dans les.
Revenir quand même à la culture,
à l'art. Mais les conditions sociales d'accession à la culture, nous sommes en train de parler.
Oui, mais c'est ça, culture. C'est ça. Social,
mais des conditions culture, sociales d'accession à la culture, okay. Elles sont plus.
Mélange, ce que vous avez dit, c'est mélange, métissage. Voilà. Toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a une nouvelle culture selon la société, mais aussi selon. Par rapport à ce qu'étaient avant les enfants de 0 à 2 ans, etc., etc., etc. Ça veut dire que ça pose quand même la question que peut-être il s'agit d'accepter une nouvelle culture naissante. Voilà. C'est parce que vous avez parlé hein, que je dis ça. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il va s'inventer une nouvelle culture, qu'on va être obligé, parce que la culture qu'on a, par exemple, à Marseille, moi je trouve que Marseille, c'est génial pour ça. Marseille, il y a des moments où moi je me retrouve au bled, quoi, quand j'étais au Maroc, quoi. Je veux dire, je suis plus en France. Mais c'est ça qui est super. C'est que, qu'est-ce que c'est que la culture de Marseille? Mais c'est ce mélange. Et même si on peut faire, pourquoi pas, mettre en valeur l'occitan, mettre en valeur les choses qu'on a apprises à Marseille, comme la bouillabaisse, comme plein de choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas garder la culture ancienne? Mais il faut savoir que la vraie culture dans chaque région, bah, il faut dire adieu, parce que sinon, bah, on va plus pouvoir avancer. Et c'est ça que vous dites, c'est que nous, bah, bon, on peut critiquer les enfants qui sont devant des écrans, d'accord. Mais n'empêche qu'ils les ont eus, ces écrans-là, et que donc, bah, il va falloir qu'on fasse avec. qu'on fasse avec cette mixité, avec cette évolution technique et philosophique.
Je crois qu'il a la réponse. Lui.
Ah non, non, j'étais béat d'admiration. Je répète, j'étais béat d'admiration.
Mais on est en train de parler des points de la culture.
Mais je suis d'accord sur ce qu'elle dit. Je dis qu'il ne faut pas dire adieu aux cultures. Voilà. Et c'est au contraire ce qu'elle dit quand, Marseille, quand elle dit aux Marseillais, on se croit au bled, il y en a qui doivent avoir des cheveux qui
voilà,
se lisent comme
ce
ça.
Voilà,
mais ça, c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux quand même. C'est le pluriculturalisme de Marseille, mais qui est bien plus isolé que, hélas, que ce que l'on croit, parce que quand on se promène la nuit à Marseille, voilà. C'est comme, je ne sais plus dans quelle partie d'un continent, il y a deux moments où, je crois que c'est, il y a deux océans qui se frôlent, mais qui ne se mélangent pas. Quand tu vas de Courestienne-d'Orve et du Côte-Toire de la Criée, et que tu marches, et après, là, tu as, on va dire, les blancs de blanc, en gros. Après, tu arrives sous l'ombrière, d'un coup, on est à Marrakech, Casablanca, surtout pendant l'été, et c'est merveilleux. Après, il y a une espèce d'îlot désertique. C'est la montée de la première partie. Ça va changer parce que ça va être piétonnier. Donc ça, là, on en reparlera. Puis tu arrives au cours Belzunce, et d'un coup, tu as encore un autre aspect du Maghreb. Puis, enfin, voilà. Le mélange, il se fait extrêmement peu. Et on revient plutôt à ton histoire de salles fermées que de salles ouvertes. Voilà. Parce que
tu es en train de parler de pan culturel. Moi, je parle de la culture dans son ensemble. Parce qu'il y a des ponts plus que des pans. Un P-A-N, un pont. Des pans et des ponts. Tu vois, il y a des pans culturels entre lesquels il y a des ponts.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc,
entre lesquels il faut arriver à faire des ponts.
Bon,
plutôt.
Voilà. Et donc, justement, à Marseille, c'est ça. Alors, tu nous ramènes à Marseille. Nous sommes à Marseille, nous vivons à Marseille. Et donc, il y a une réalité culturelle, une réalité sociale marseillaise qui va de l'occitan à la musique andalouse, à la musique klezmer, nous trouvons tout. C'est-à-dire que.
Mais c'est dans les milieux artistiques qu'elle se fait cette fusion.
Voilà,
c'est ça qui est
cette fusion se fait, comme tu le dis, uniquement dans les milieux artistiques. Et dans l'art, alors que. Et là, nous tombons dans la politique, c'est-à-dire que...
Oui, voilà. Ça m'intéresse davantage. Vrai, oui. Parce que moi, je ne suis pas marseillais, je suis avignonnais. Hein. Ouais. Donc Marseille, je connais moins bien que vous. Oui, revenons à l'art. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais revenir à l'art. Et j'aimerais dire un mot à propos de ce que souhaitait, me semble-t-il, Wahib tout à l'heure, que l'on parle de politique dans l'art. Voilà. Mon opinion est celle-ci, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'ai une assez bonne connaissance de Dante Alighieri, bon, que j'ai enseigné, que j'ai traduit, etc. Alors, Dante, c'est quelqu'un qui était engagé politiquement, n'est-ce pas ? D'autre part, Dante, c'était quelqu'un qui était capable de rêver de manière absolument sublime, majestueuse, dantesque, l'adjectif est devenu maintenant... dans ce sens, dans le sens de magnifique. Et ces deux choses, qu'est-ce qui est resté aujourd'hui ? Les engagements politiques de Dante, c'était qu'il était pour l'empereur plutôt que pour le pape à l'époque, et qu'il était pour telle tendance politique très 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 précise et qui aujourd'hui ne nous parle plus. Il ne reste pas grand-chose de son engagement politique. C'est la partie de la Divine Comédie dont, qui endort le lecteur d'aujourd'hui. Ce qui réveille au contraire le lecteur d'aujourd'hui, ce sont ces extraordinaires sursauts d'imagination. Et je me dis que je ne serai pas, moi, pour un art directement engagé. Je serai pour un art très indirectement engagé, c'est-à-dire... Non pas engagé, c'est toujours mon idée d'utopie et d'uchronie, utopie et uchronie. Non pas directement engagé dans l'ici et le maintenant, parce que l'ici et le maintenant, c'est de l'ordre du militantisme. Moi, j'ai été un militant politique, je l'ai été dans ma jeunesse. Maintenant, j'ai 85 ans, je suis plus tellement vaillant. Mais je n'ai pas mis, dans le peu que j'ai pu faire comme film ou bouquin, je n'ai pas mis... Mon engagement politique, je l'ai mis dans mes actions. J'ai collé des affiches, j'ai vendu des journaux, des machins comme ça. Bon, j'ai participé à des manifs. Bon, mais c'est pas. Il me semble que l'art est du côté de l'onirisme. L'art est du côté du rêve. L'art, et c'est le lieu où le mot politique devient synonyme du mot poétique. C'est ça, l'art. Ce n'est ni l'art stalinien, ni l'art hitlérien, ni l'art engagé à la Sartre. J'aime beaucoup Sartre, mais je n'aime pas quand il s'engage dans ses œuvres d'art. J'aime beaucoup quand il s'engage dans ses essais. Là oui. Voilà. Voilà.
Tu peux dire une chronique, s'il te plaît.
Comment ?
Une chronique.
C'est comme utopique signifie. Dans n'importe quel lieu, un autre lieu, n'importe lequel, Uchronique, c'est n'importe quelle époque, n'importe laquelle.
Non, mais moi, je trouve qu'il y a quand même une contradiction fondamentale dans ce que tu dis.
Oui.
Parce que ton onirisme, ta créativité, ton désintérêt pour l'instant présent.
Je n'ai aucun désintérêt pour l'instant présent, attention.
Attends. Pour l'instant présent du mouvement social, c'est-à-dire sur le plan politique.
Je n'ai pas ça.
Est-ce que, justement, ce n'est pas à partir de tes positions dans la société, qui sont des positions politiques,
Bien sûr, mais pas dans une œuvre d'art.
Oui, mais. Est-ce qu'elle ne se retrouve pas quelque part ? Tu ne vas pas... Je ne sais pas. Un exemple. Les Misérables, Victor Hugo, n'aurait pas écrit Les Misérables s'il n'avait pas été conscient de la misère réelle dans la société. Il n'aurait pas écrit.
C'est davantage social que politique.
D'accord. Alors... Il écrit donc dans une forme littéraire qui n'est pas le surréalisme.
Non.
Mais un surréaliste, avec la même prise de conscience de la misère sociale qui l'entoure, va créer une œuvre d'art, va écrire, par exemple, et va l'écrire dans une forme surréaliste. Il ne va pas décrire la misère, il ne va pas en faire un discours normatif, etc.
Voilà.
Mais il va, dans son texte, faire ressentir, il va demander au lecteur de l'imaginer, parce qu'il est dans l'imaginaire.
Dans l'imaginaire.
Tout à l'heure, tu as parlé d'art d'imagination.
Il n'y a aucun interdit chez moi. Il n'y a pas de tabou.
Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit. Je sais que c'est des discussions un peu petite bourge, comme on dit dans le langage habituel, c'est-à-dire que ça n'a pas trop d'intérêt pour ceux qui nous écoutent ou pour les artistes
ou pour
l'art lui-même, quel qu'il soit, la littérature, le cinéma ou n'importe quoi, ou le dessin, j'en sais rien. Donc, qui n'a pas d'intérêt, mais en fait, ça pose la question fondamentale de...
Bien sûr.
L'essence de l'art, ce n'est plus de,
tout à fait, de l'essence de l'art.
Moi, je pense que la première question, Marc, elle est entre tes mains, sur ton dernier ou avant-dernier conte que tu as écrit.
Tu peux nous le lire.
L'intitulé du pourquoi. Si vous me permettez, j'aimerais vous passer un extrait du film de Yann, justement pour questionner cet endroit précis où il s'agit de l'art et de sa société. L'art ne peut pas être soustrait de sa société.
Mais j'ai jamais dit que c'était soustrait de la société. C'est soustrait du militantisme politique. C'est différent.
Alors regardons ces images.
Oui, mais quand tu rêves et quand tu exprimes ce rêve, tu l'exprimes en fonction de ton militantisme aussi.
Je l'exprime en fonction de mes désirs. C'est pas la même chose.
Oui, mais
je ne vais pas organiser ça sous la forme d'un militantisme tel que...
D'accord, dans la pratique. Voilà, je veux dire que dans la pratique, évidemment, que le militantisme est une pratique, l'art est une pratique.
Voilà.
Mais tous les deux, chez toi, vont...
Après la série de disparitions inquiétantes de personnes non identifiées par les services de la police locale, plusieurs pistes restent à suivre. Il semblerait que ces actes ne concernent pas seulement nos communes du Sud, mais que bien d'autres disparitions se seraient produites dans les mêmes circonstances à travers le pays. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du village d'Antoine et nous prêtons nos micros aux gens du village pour témoigner de ce qui se trame. Plusieurs personnes parlent de ces migrants comme des gens de voyage qui seraient des victimes faciles pour un réseau mafieux qui opère ça et là à travers tout le pays. On parle même de combats d'hommes en situation irrégulière sur le territoire qui poussent ces gens entre les filets d'une puissante organisation criminelle qui ferait d'énormes bénéfices et qui profiterait du besoin de ces migrants jusque dans la jungle de Calais, là où ce réseau semble recruter le plus de candidats à ces combats de mise à mort.
Le mur sur lequel les prophètes ont écrit a craqué dans l'abîme, au-delà des armes de la mort. La lueur du soleil brille de joie quand chaque homme est redevenu seul avec ses cauchemars et ses rêves. Quand le silence dessine des écrans entre les tours de métal de la connaissance, les courbes du temps s'amenuisent et se liquéfient dans la mort de ceux qui savent et ceux qui ont su. Le savoir est alors le seul commun ami. Quand personne ne reconnaît les lois, la connaissance du genre humain que je connais est entre les mains des fous. La confusion sera alors la légende. Comme je traverse ce fracas de bris passion que l'on a fait et que l'on laisse derrière, et l'on rit, mais je sais que demain je pleurerai. Oui, demain, je sens que je pleurerai.
Et donc, ça veut dire que pour vous, ce sont des victimes ?
Voilà, ce sont là les mots prononcés de l'épitaphe de King Crimson par la voix de Yann. Et j'aimerais lui donner la parole pour un peu mettre à égalité Henny et Marc sur la question du réel. Est-ce que l'art doit être collé au réel ou est-ce qu'il doit être complètement distant, ou dans quelle mesure doit-il, notre art, en tout cas le cinéma, garder sa distance
alors là, c'est
rapport au réel?
Les extraits que tu as montrés, c'est dans l'épitaphe, c'était au marathon du film. Alors le principe, c'est 5 jours, un film, ils nous mettent tout à disposition et on travaille sur le livre ou une nouvelle d'un auteur. Là, l'auteur, j'ai pas aimé les premiers mots, les premières phrases, sur sa vision des migrants, sur on est à Vence, hein, pour vous situer un peu le Vence, Grasse, on connaît les histoires du passé dans ces régions-là. Et donc, j'ai voulu faire un contrepoint, c'est-à-dire, j'ai pas lu son livre, et je lui ai donné la parole. Pour lui demander, mais elle a pas compris en fait, que parce que elle, pour elle, les migrants c'est une espèce de d'entité, de gens qui sont déculturés, de gens, alors qu'il y a des médecins, il y a des avocats, il y a un peu de tout, quoi. Et je voulais lui montrer ça, mais avec ses mots à elle. Je lui ai fait lire un passage et j'ai fait lire j'ai trouvé un acteur, un barman, quoi, algérien, qui lit avec ses mots, en fait. Et j'ai mis les deux. Et pour dire que, voilà, on lit, on voit, on n'entend pas les mêmes choses. Et l'art, quand on se présente, enfin, c'est ça que je voulais dire, en tant que chanteur, que romancier, que réalisateur, que, je sais pas, peintre, sculpteur, on a quand même un ego un peu surdimensionné. Et pour beaucoup, je dis pas que c'est général. Je fais jamais de truc général. Je parle jamais de ni de personne ni. Mais dans un ensemble, c'est vu comme ça dans une société qui est en manque de repères, qui est en manque de choses. Et là, pour ça, moi, je me définis dans mes ateliers, par exemple, que je fais comme un accompagnant, un humble accompagnant. Quand je fais un film, je suis pas réalisateur. Je me sers de l'outil qu'on m'a donné pour montrer ma vision du truc. Elle peut convenir ou pas. C'est pas et je donne toujours l'espoir de dire, moi, je donne pas de morale. Je donne des leçons à personne. Je dis, voilà, moi, comment... Donc, si vous n'êtes pas d'accord, on discute. Mais pour ouvrir quelque chose. Et je pense que l'art, parce qu'on parlait de l'art militant, il y a de l'art qui nous convient, puis il y a de l'art qu'on déteste ou qu'on vomit. Pour plein de raisons. Mais on vomit plus l'homme qui l'a fait que l'art lui-même. Attendez. Parce que il peut. Il y a eu des super sculptures, même oui. Sur. Ma mère l'a vécu lever le livre. Hein. Ma mère l'a vécu lever le livre. Pendant 30 ans, quand elle entendait des bruits de bottes, parce qu'elle était enfermée dans une pièce, elle a entendu que ça en fait. Et ça a été l'enfer. Mais au niveau des chants, au niveau de... C'est quand même grandiose. Les chants de l'Armée Rouge, c'est quand même grandiose.
Certes, oui.
Et c'est ça qui est... Et sans jeter la pierre...
Je oui, pas malheureusement, Céline est un bon romancier, voilà. Malheureusement. Oui.
Mais il y a eu des grands écrivains, qui ont distillé aussi des idées... Oui. Qui ne conviennent pas.
Bien sûr.
Je ne porte pas de jugement de valeur.
Ah si, il faut porter des jugements de valeur. Hein.
Je les combats. Oui. Non.
Le fascisme, c'est pour moi, c'est à vomir.
C'est une condamnation objective, ce n'est pas un jugement de valeur. Quand je condamne le fascisme, je le condamne sur des bases objectives. Ce n'est pas un jugement de valeur. Oui. Évidemment, quand on revient aux valeurs, valeurs républicaines, valeurs humaines, etc.
En fait,
mais c'est sur cette base-là.
On ne peut pas condamner quelqu'un sur la morale. Moi, je suis d'origine vietnamienne et j'ai aucun jugement sur les Vietnamiens quand mon oncle est dans l'armée française et que mon père est dans la résistance. Pour moi, mon oncle n'est pas un traître. C'est ça que je vais vous dire.
C'est
mon oncle, il a choisi son destin.
Tu veux dire l'armée française de Pétain, c'est ça que tu veux dire?
Non, l'armée française qu'on fait des Mien Phu.
D'Indochine. D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et pour moi, c'est pas un traître. C'est la grosse différence du point de vue, en fait. Et il faudrait comprendre les points de vue de l'Afrique, les points de vue... Parce que souvent, on a un point de vue qui est un peu, aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, même de là, c'est un point de vue occidental, en fait. Et l'autre, on s'en fout. Le chinois, l'africain... Vous savez que, quand même, la philosophie est enseignée, a été enseignée pour la première fois des Lumières des philosophes africains, il y a 5 ans, hein. À la Sorbonne. Et c'est même pas un enseignement sur ces philosophes.
Mais c'est des modules, oui. Ouais,
c'est des modules, ouais, et c'est une nana. Et il y a un collectif de chercheurs, de penseurs, de métis qui sont en train de reprendre un peu. Et ça, c'est rassurant.
Mais je te rassure, Yann, tu poses un problème essentiel. C'est celui de l'impérialisme culturel, c'est-à-dire de la domination culturelle que j'appelle, moi, l'impérialisme culturel. C'est évident qu'il y a un européocentrisme, comme il y a... C'est tout à fait... Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'était tout à fait logique. C'est dans l'histoire, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre du déroulement de l'histoire que nous avons vécu.
J'ai pas trop envie de comprendre là ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a des limites et que ces limites-là, il faut les poser. Tout n'est pas dans l'histoire ou autre, etc. Enfin, ce qui s'est passé en Afrique avec, j'ai dû oublier le nom parce que ça m'a tellement fait mal, des gens qui ont été assassinés, femmes, enfants, comment ils s'appelaient
Le Rwanda, tu parles du
Rwanda. Le Rwanda, voilà.
Oui.
Je veux dire, non, ça c'est ça la limite.
Absolument atroce.
C'est atroce, je veux dire. Les nazis, c'est atroce.
Absolument.
Et c'est pour ça qu'il faut quand même y penser, parce qu'on ne peut pas être tolérant dans tout. Parce que si on est tolérant dans tout, on peut laisser venir des phases de collaboration, comme on a vu, etc.
Je n'ai pas...
J'ai pas envie d'être parano non plus.
Je n'ai pas parlé de tolérance. Je n'ai jamais dit tolérance. Je n'ai pas dit ça.
Je lui répondais à lui, en fait.
Oui, elle m'a répondu à moi.
Oui, attends. Je réponds à Yann.
Je voudrais dire juste un truc. C'est qu'au Vietnam, il y a eu 6 millions de morts.
Oui.
D'accord. Que si Ho Chi Minh n'avait pas calmé les choses en disant pas de règlement de compte à la fin, absolument. Comme il y a eu en Algérie. Il y a eu des règlements de compte jusque dans les années 80.
Absolument, absolument. Hein, absolument.
Au Vietnam, il n'y a pas eu de règlement de compte. Et que les fascistes qu'on a combattus, mon père a toujours combattu les fascistes. Moi, je les ai combattus dans la rue. Ordre Nouveau, tous ces mecs qui faisaient des ratonnades. Moi, j'étais dans la rue avec des battes de baseball, on les accueillait. Donc, si tu veux, quand je parle de jugement, je n'ai pas de jugement sur l'homme. J'ai de jugement sur ce qu'il crée, sur ce qu'un ensemble, une masse crée, un système. Mais j'ai eu des amis qui ont été des fascistes. On s'est battus, on a discuté, et ils ne le sont plus maintenant. Mais parce qu'il y a eu une évolution, et parce que je crois en l'évolution de l'homme.
Moi aussi, mais ça ne m'empêche pas.
On a été fasciste à un moment, qu'on a fait les pires saloperies, autrement, on les fusille et point à la ligne.
Non, je ne vais pas jusque-là.
On revient au
cow-boy. À la peine de mort. Non,
je
suis pas là.
C'est ça que je veux dire.
Je ne suis pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier quand même.
Ce n'est pas de la tolérance. C'est d'essayer de faire évoluer les choses.
On est sorti du thème de l'art et du cinéma.
Notre sujet, c'est de l'art. Ce n'est pas l'histoire en elle-même. L'histoire, on peut en parler. Mais moi, je ne sais plus ce que... Tu m'as fait perdre le fil de
C'est bien, les femmes sont fatales.
Alors, comment est-ce que vous voyez, vous, les rapports entre l'art et la politique?
Voilà, c'était là le sujet.
Il y en a eu plusieurs de sujets.
Il vaut mieux perdre les perles que de perdre le fil.
Nous parlions de tout ça, parce que la guerre du Vietnam dont tu parles, de cette partie de la guerre du Vietnam, parce qu'il y a eu deux guerres du Vietnam, il y a eu celle ensuite après l'indépendance, celle des Américains.
Mais
c'est deux phases différentes d'une même guerre, donc ils n'avaient pas la même... Ton père n'était pas un harki ou en Algérie, c'est une guerre de décolonisation. Voilà, point barre maintenant sur l'histoire. Nous revenons à l'art et l'histoire et le cinéma et la politique.
Un nouvel extrait.
Voilà. Et donc, quand je parle d'art et de politique, il y a... nous la connaissons tous, vous la connaissez tous, la fameuse phrase de Lénine. Par exemple, le cinéma est un art majeur et... Il faut que nous le maîtrisions. Un mot, je ne me rappelle pas textuellement, mais c'était son idée. C'est-à-dire
Il faut que nous le maîtrisions. Oui. Ah, je ne connaissais pas.
Non, il a dit l'art est un. Le cinéma est un art majeur. Il faut que le parti. Enfin, que ça soit contrôlé directement par le parti. C'est-à-dire qu'il voit s'inscrire et inscrire ses productions. Dans le cadre de la politique du parti.
C'est complètement chiant.
Bon, donc voilà, donc je veux dire que la politique ne se désintéresse pas de l'art.
C'est évident.
Donc il y a eu des procès terribles.
Ce que je disais tout à l'heure.
Même des réactions sociétales. Sur le Christ.
Scorsese.
Il y a eu même une...
La dernière tentation du Christ.
La dernière tentation du Christ.
Il y a eu des agressions dans des salles de cinéma.
Il y a eu même une femme qui est morte parce qu'elle avait des difficultés respiratoires et elle avait reçu bon paquet de gaz lacrymogène. Donc on voit bien que l'art n'est pas indifférent, n'est pas indifférent à la politique, il n'est pas indifférent à la société.
Même si...
On croit que l'art est lutiste.
C'est plutôt la société qui n'est pas indifférente à l'art. C'est l'inverse. Parce que l'artiste a fait la dernière tentation du Christ comme il l'a conçu. Et c'est un type de société qui s'est insurgé contre ce film.
Il le ferait aujourd'hui, il aurait peut-être pas la même réaction. Oui, il y aura toujours, mais il n'y aurait
pas... Si on voit le comportement de la famille qui est pour tout le monde, qui est contre
la manif pour tous, ou la famille pour tous.
On peut leur refaire une tentation du Christ, ils seront...
Voilà, je veux dire que Je veux dire que l'art, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un truc élitiste où la société sont, il y aurait...
Mais il est récupéré par les élites, entre guillemets, gros guillemets, autour du mot élite, évidemment.
Voilà, donc, et il devient l'objet d'un marché aussi.
Bien sûr, on les achète.
On les achète.
On achète les tableaux pour les mettre dans des coffres en banque et ne jamais les regarder. Hein. Voilà. Ce sont des valeurs, c'est comme des...
Sécurisé. Et de toute façon, quand on parle des subventions de films, on parlait tout à l'heure du CNC, de ce qu'ils financent ou pas, c'est dans l'air du temps. On voit les films français aujourd'hui, c'est pour moi, et ça c'est juste moi qui le pense, même si je le partage avec beaucoup d'autres, mais c'est d'une pauvreté affolante. Et j'ai vu des films.
Moi non.
Bienvenue chez les Ch'tis est le film qui a rapporté le plus de fric de toute l'histoire du cinéma français. C'est ce film-là qui a rapporté le plus de fric.
Oui, mais moi je ne parle pas forcément d'argent.
C'est le talon d'Achille du cinéma.
Et oui.
C'est le talon d'Achille du cinéma. Parce qu'il faut de l'argent, c'est une industrie, parce qu'il faut des moyens.
Grâce à Bienvenue chez les Ch'tis, il y a peut-être beaucoup de films qui ont été faits, c'est toujours comme ça. Hein. C'est grâce à Johnny Hallyday quand Sylvestre chantait, on le sait ça. On le sait ou on le sait pas, mais c'est terrible à savoir, mais... moi, Bienvenue chez les Ch'tis, je ne l'ai pas vu, donc je ne me demande sa qualité ou sa non-qualité.
Une ou deux séquences sur YouTube, ça m'a suffi.
N'empêche que tu viens de dire que ça. Alors, ça serait intéressant c'est de savoir grâce à cette horrible Bienvenue chez les Ch'tis, combien de films d'auteurs que tu détestes peut-être, mais qui ont la qualité d'exister aussi, existent aussi.
En m'étant intéressé au dossier de production et en allant voir le CNC pour savoir ce qui s'y passait, je suis monté 4 fois à Paris, j'ai rendez-vous, on a été au CNC. Pour monter des projets, etc. Et je sais que politiquement, ils ne prendront pas mon projet. On en a parlé, hein.
Il faut que tu nous éclaires de quel projet tu parles.
J'avais un projet entre le Vietnam, l'Algérie et la France. Je partais du plateau des Guillères au fait de résistance de la France. Et le truc, c'était le symbole n'est pas universel. Et c'est justement pour monter les points de vue à travers des faits d'histoire. Comment les familles, au Vietnam, la mère, la constitution familiale, en fait, se comportent face à cette histoire. D'accord ? Donc, c'était tout un périple. Et la Turquie, parce que j'ai une grosse affinité avec la Turquie. Et c'est pas l'air du temps. C'est-à-dire que moi, métis, on a fait un film abominable, d'un racisme, mais terrifiant, avec Clavier... qui est marié, il a 4 filles, et elle se marie avec un noir, un jaune, un vert, c'est le retour au racisme pur et dur, et à l'idée reçue. Ça, c'est insupportable, c'est ça que produisent le CNC. Quand tu vois des films d'auteurs, il y en a un ou deux qui vont passer, mais qui vont gratter le dessus. Tu n'auras plus des grands films d'auteur, même si moi je ne suis pas forcément Godard ou Jean Rouche, mais ils ont amené quelque chose au cinéma. C'est fini. Quand tu vois, moi je vais former des ingénieurs du son, hein, mais il n'y a plus de point de vue. Ce sont des techniciens. Il n'y a plus aucun point de vue. Là j'étais voir des trucs d'étudiants de c'est de la pub et ça ils appellent ça de l'expérimental. C'est infernal. Pas des étudiants, quand tu leur montres le point de vue, j'ai travaillé avec des étudiants des Beaux-Arts qui créaient leurs trucs, j'ai dit c'est vachement bien ce que vous faites. Mais quand vous faites votre installation, c'est quoi le propos? Ils sont dans la technique. On est dans une société de la technique. Et du coup, ils font des petits amplis, des petits machins. Et quand ils font une installation, plop, quel est le point de vue? Quel est le contenu? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter? On n'a pas. Et ça, c'est des gens de l'élite. C'est-à-dire, c'est des bac plus 5 ou plus 6. Ou... Imaginez dans les centres d'apprentissage. Imaginez ce qu'on leur enseigne dans les centres d'apprentissage. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la plus-value que les associations qui récupèrent ces gens-là dans l'art, dans l'écriture, dans... On récupère des cadavres.
Oui, les images sont toujours belles et léchées, mais j'en ai marre des images léchées.
Voilà, voilà.
Plus les supporter.
Le beau, ouais, la belle voix.
Moi,
ouais.
Je reviens sur, si vous permettez tous, hein, je reviens sur cette histoire où l'histoire des ch'tis, le film sur les ch'tis. Mmh. Ou dire que...
On va pas parler des ch'tis
un film. De faire un film à gros budget, etc., mais qui rapporte et qui va permettre à d'autres de faire des... Moi, je ne crois pas.
Il y a d'autres moyens de permettre.
Voilà. Là. Donc, voilà, il y a d'autres moyens. C'est de mutualiser, c'est de trouver des solutions alternatives pour permettre aux réalisateurs, aux créateurs, aux artistes du cinéma d'avoir accès à l'outil de production. C'est ça qui est... bien sûr, on me dira qu'il y a une taxe sur les trucs, il y a un fonds qui va au CNC, il y a des subventions qui vont à telle association ou à tel groupe de création cinématographique. Mais c'est insuffisant, ce n'est pas... Je veux dire, donc cette histoire qu'il y ait un grand cinéma de gros budget, de trucs, qui rapporterait de l'argent, qui renflouerait, qui réabonderait, comme dirait un financier, pour pouvoir donner faire la charité en quelque sorte, charité cinématographique. Ouais. Moi, je n'y crois pas à ça.
Ça me fait penser à ce principe de droite, auquel je ne crois pas du tout, selon lequel il faut aider les très grosses sociétés, les multinationales,
oui, pour que ça ruisselle.
Ça, je suis contre.
Non, mais depuis longtemps, la France... c'est que l'art... il y a eu des journaux, Art Presse. Moi, j'étais au début des années 90, quand il y a eu les installations vidéo, le CICV, Centre International de Création Vidéo. Tout ça, qui ont réuni une multitude d'artistes venant du monde entier en France, c'est l'élite. Voilà. On a créé des élites qui se sont senties élites.
Ouais.
Qui se sont senties pousser des ailes. Quand on veut faire les Américains aujourd'hui, la post-production, c'est le domaine des Américains. C'est eux les champions en post-production cinéma. En France, on était les champions du son direct. On n'a plus. On prend des bandes-sons, on les met dans les films, il n'y a plus de point de vue. C'est les Américains, on peut dire ce qu'on veut sur la société américaine, mais ils ont tout un circuit de cinéma expérimental, de cinéma d'auteur, de films expérimentaux, qui sont drainés par les radios, par les centaines de radios privées, en fait, qui alimentent. Et tous les secteurs sont visibles. On parlait de l'Union soviétique tout à l'heure. Quand le mur est tombé, d'accord, les mecs étaient interdits dans leur pays, etc. Mais on a vu tous les films. Quand il y a eu Pliouch, quand il y a eu Solzhenitsyn, tous les livres, ils ont été à Genève. C'est-à-dire qu'il y avait un système de production, y compris dans une Union soviétique, dure. Tout l'art était... Il n'y a que les nazis qui ont massacré l'art. Même Mussolini, il a conservé les trucs, les musées, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si on parle de l'art, on ne parle pas de politique, de situation de... Et en France, on est en train de faire, alors je ne vais pas aller jusqu'à là, mais de massacrer cet outil. Parce qu'on a des outils forts. On a, alors nous en France...
Les Frères Lumière.
Oui, mais c'est parti d'ici quand même, c'est à Marseille la première projection, non?
Oui, à la Ciotat.
À la Ciotat ou sur la Canebière, la première?
La Ciotat, ensuite à la Canebière.
Voilà,
mais j'ai vu un film hollandais, 31. Hein, que je connaissais pas, un film d'horreur magnifique. C'est un truc de Barjot en 31. Non, en 21. En 21. Inconnu au bataillon. Donc il n'y a pas que les Frères Lumière qu'on fait. On est toujours dans cette récurrence que nous Français, alors là, on est les champions du monde surtout. Et du coup, aujourd'hui, On voit qu'on n'est pas les champions du monde surtout. Mais on a une... Toi, tu parlais des artistes, alors, sur les subventions, etc. Mais comme ces artistes viennent du même terreau, si on prend les écoles d'art, si on prend même Vaugirard, La Fémis, etc. C'est les mêmes. Quand ils montent des associations, alors là, j'en ai bouffé, des associations. Ben, ils ont un ego tellement grand que ça ne marche pas. Même s'ils veulent s'associer pour faire des films, on va faire des films pour un mec, pour un réalisateur, deux. Mais tu n'auras jamais 10 réalisateurs qui feront ensemble des choses.
Et, collectif, ce n'est pas de chez nous.
Et voilà, et quand on dit, tu sais, on est un collectif, moi je n'ai jamais dit que je ne suis pas un collectif. Moi je prends des individualités. On crée ensemble un projet,
normal,
en totale égalité, mais on n'est pas un collectif. C'est quoi cette idée du collectif, qu'on serait tous des frères et des sœurs c'est un peu le début de la secte.
Oui. Oui, mais quand même, l'homme est social, hein, faut pas oublier. On nous a coupé l'herbe sous les pieds quand même, en parlant de l'individu, avec son petit frigidaire, sa petite télé... ces difficultés.
Ça, c'est de l'ordre de la propagande.
Hein, alors que quand même...
L'homme, il est plus complexe que ça, quand même.
Ouais, donc voilà. Voilà. Mais vous allez me taper dessus, hein, je pense, parce que moi, j'ai bien aimé... comment vous avez dit
tout à l'heure ?
Les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis.
C'est horrible.
Ah ben, j'ai bien aimé, parce que je trouve que c'est bien aussi qu'on ait des comédies comme ça. Mais que ça soit une détente.
Oui, non,
s'il y a des films à hauteur aussi. Mais enfin, c'était marrant quand même.
Oui, oui. Non, mais je comprends.
Moi, je me suis pas ennuyé en le voyant. Je veux être honnête.
Oui,
hein.
Non, mais c'est pas sur. Enfin, moi, c'est pas sur le film que je déteste. C'est ce film qui a d'un racisme, mais extraordinaire. Ouais. Mais sur le marché du comique français, je préfère Danny Boone à Clavier. Pour donner un exemple.
Oui, moi aussi. Hein.
Ouais, bon. Après, il y avait toute une vague d'Algériens avec Roche Dizem, voilà. Ouais. Que j'aimais bien parce que lui, il a impulsé quelque chose. Très peu d'Algériens à la télé. Hein. Ils sont tous Marocains, Tunisiens. Très peu d'Algériens, même en comique. Il y en a eu un ou deux. Vraiment. Et je trouve qu'il a impulsé quelque chose, même si on peut ne pas être d'accord avec comment il... Tu sais, il a fait un film sur la guerre d'Algérie avec... Il y a 5-6 ans, avec tous les Algériens.
Donc c'est pas lui le metteur en scène, hein. Là il y a un glissement.
Oui, mais c'est eux qui ont défendu le film, oui. Et c'est lui qui l'a porté, en fait. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait,
là ? Voilà, et lui, il l'a porté... J'aime bien, voilà.
Mais c'est le cinéaste, c'est Rémi Bouchareb. Il faut rendre à César ce qui est à César.
Voilà.
Roche Dizem, c'est un leader, mais c'est un grand acteur.
Oui.
Mais c'est pas lui qui a fait le film.
Non.
Les
mais
deux films, hors la loi, il y a indigène.
Voilà. C'est mais il fédère.
Oui.
Il fédère un truc, un sens qu'il a envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Après, sur ce problème d'Algérie, bon, le film, j'ai tiqué. Mais, parce qu'il faut quand même qu'on avance un peu. Parce qu'on avance, on revient en arrière, on avance, on revient en arrière. Les gamins, ils ne comprennent plus rien, je jure. Sur la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, la guerre de colonie, on avance.
Merci.
On porte des trucs.
Merci, Yann.
Et puis
merci.
On recule.
Merci, Jacques. Merci, Marianne.
Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.
Merci, Marc.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Sur ce. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu, mais le courage reste celui de chercher la vérité, de la dire et de ne pas subir le mensonge triomphant, les huées fanatiques et les applaudissements imbéciles. Merci chers auditeurs, à la prochaine émission, nous vous souhaitons bonne soirée sur ces belles paroles, les prophètes. Et le mur sur lequel ils écrivaient est descendu.
Quand on fait la photo, ça...
Il est en train de se fissurer. Je vous laisse avec ce tube de King Crimson, Epitaph.
drowns the screams. Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back. I feel.